dans la foi, vertu surnaturelle donnée par Dieu, nous reconnaissons qu'un grand amour nous a été offert, qu'une bonne parole nous a été adressée et que, en accueillant cette parole, qui est Jésus-Christ, parole incarnée, l'Esprit Saint nous transforme, éclaire le chemin de l'avenir et fait grandir en nous les ailes de l'espérance pour le parcourir avec joie. Frères et sœurs, ces mots tirés de l'encyclique Lumen Fidei du pape François, Benoît François, peuvent être mis en exergue à la liturgie de la parole de ce jour. En effet, nous sommes invités par l'Église à nous réjouir, mais pas de n'importe quelle joie. Nous sommes invités à nous réjouir dans le Seigneur. Toute la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete, en raison de l'antienne d'ouverture tirée de l'épître aux Philippiens, « Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». Toute la liturgie est donc orientée vers la source de cette joie qui doit être la nôtre. Et cette source, c'est la venue et la présence du Seigneur parmi nous. Deux figures majeures nous sont données pour nous accompagner dans ce mouvement de joie, Marie et Jean le Baptiste. La Vierge Marie, tout d'abord, elle est la grande figure de l'Avent. On l'appelle souvent l'étoile de l'Avent. Quel beau nom! Car elle est le grand modèle de la foi de l'Église. Or, le temps de l'Église, c'est précisément le temps de l'Avent. Oui, comme le professe le Credo, nous sommes invités à attendre le retour du Seigneur qui viendra pour juger les vivants et les morts après son premier avènement, son premier avant dans la chair de notre monde et que nous allons fêter dans quelques jours à Noël. Le temps de l'Église, c'est le temps de l'espérance. Autrement dit, le temps qui sépare la foi de la claire vision de Dieu et du royaume à venir. Oui, le Seigneur reviendra dans la gloire pour établir son royaume éternel, ce royaume qui n'aura pas de fin, royaume de lumière et de joie. Telle est la foi de l'Église. La joie de la foi de l'Église. Nous sommes en tension vers ce royaume que nous devons attendre et espérer en veillant dans la foi. Cela n'a rien à voir avec la conviction que la marche de l'histoire s'oriente nécessairement vers un mieux et que le progrès technique résoudra tous nos problèmes. Ce serait se bercer d'optimisme illusoire dont se sont nourris nombre d'idéologies criminelles et destructrices, le nazisme, le communisme, bien entendu, mais aussi plus près de nous, ce matérialisme financier, cette idéologie aussi de l'homme augmenté qui menace de faire de l'homme une sorte de robot sans âme, entièrement guidé par ses besoins les plus immédiats. On appelle cela le transhumanisme, mais c'est une transe sans humanisme et sans transcendance. Un humanisme sans humanité qui croit davantage au pouvoir de la machine qu'à la puissance de l'amour divin et à son amour pour l'homme. La Vierge Marie est là pour nous rappeler la joie de toute naissance en ce monde et la joie toute particulière et unique qui fut la sienne, de porter en elle le Sauveur du monde. Le Verbe s'est fait chair en son sein virginal, autrement dit, le Verbe n'a pas craint d'épouser notre humanité. Et donc l'incarnation du Verbe donne à l'homme la grâce de s'accepter humblement, certes dans une humanité fragile et vulnérable, ô combien. mais aimée de Dieu, rachetée par lui, une humanité qui n'est ni méprisable, ni malléable au gré de tous les docteurs Frankenstein qui voudraient la manipuler à leur gré sous couvert d'une science qui n'aurait nullement besoin de conscience, mais seulement de compétences et de savoir-faire technologique. La Vierge Marie peut nous communiquer sa joie de mère et de mère d'un Fils qui est Dieu même. Déjà, l'Annonciation, l'ange à l'Annonciation l'y invitait. « Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, celui qui va naître sera saint et sauvera le peuple de ses péchés. » Toute naissance d'un petit homme est déjà une joie qui fait oublier les douleurs de l'enfantement. Combien plus la naissance de Dieu dans notre chair. Il faut se réjouir avec Marie qui a consenti dans la foi à enfanter le Sauveur du monde. Il faut nous réjouir de la joie lumineuse de la venue de Dieu parmi nous. C'est le grand amour de Dieu qui s'offre à notre humanité et qui constitue la bonne nouvelle sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Toute la parole de Dieu est traversée par cette joie qu'apporte avec elle l'espérance de la naissance du Sauveur. Pousse des cris de joie, fille de Sion. C'est tiré du livre de Sophonie. Comme en écho aux paroles de l'ange de l'Annonciation, « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem, le Seigneur est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. » Et voici que Marie répond à cette invitation par ce chant de louange qu'est le Magnificat que l'Église reprend chaque jour à l'office de Vêpres que nous avons chanté dans le psaume graduel. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Cri de reconnaissance de celui qui met sa joie dans le Seigneur. Car ceux qui mettent leur joie en eux-mêmes, dans la suffisance de leur moi égocentré et égoïste, ou dans les biens éphémères d'un monde qui passe, peuvent difficilement rejoindre l'action de grâce qui est donnée aux pauvres de cœur et que Marie incarne magnifiquement. De tous ces petits qui mettent leur joie et leur espérance dans le Seigneur seul, qui trouvent leur joie en celui qui les renouvelle par son amour. Dieu en nous, nous en lui, c'est là le fondement de toute joie chrétienne. Jean, quant à Jean le Baptiste, la seconde figure des textes de ce jour, qui est-il? Il est la voix qui annonce la parole. Il est la voix qui crie dans le désert, que ce désert aride va refleurir par la présence du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu qui va s'incarner. Il baptise dans l'eau, mais celui qui vient après lui baptisera dans l'Esprit Saint. Jean n'est pas le Messie, il en est seulement le précurseur. À ceux qui lui demandent de dévoiler son identité, il ne craint pas tout simplement de se présenter comme la voix. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni aucun autre grand prophète. Il désire s'effacer devant celui dont il ne se sent même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Mais pourquoi donc une telle humilité, frères et sœurs? Parce que la mission du Christ est infiniment supérieure à la sienne. Lui ne baptise que dans l'eau. Le pouvoir du Christ est, lui, de sanctifier l'homme en le plongeant dans le baptême de l'Esprit Saint. Il y a tout l'abîme qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau et que Saint Jean a résumé plus haut dans son prologue, plus haut que l'évangile de ce jour, juste dans son prologue. « Si la loi est venue par Moïse, dit Saint Jean, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. » C'est devant cette grâce et cette vérité que Jean s'efface aujourd'hui, dans la joie de l'humble serviteur qui dira « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Oui, avec le Christ, la mission du peuple d'Israël dépasse toutes les frontières. N'en déplaise à Donald Trump. L'union de Logos, du Verbe divin avec notre humanité, fait que tout homme en ce monde est en quelque manière uni au Christ, qui s'est uni en lui par son incarnation. C'est la mission prophétique de l'Église, que de le lui rappeler encore et toujours, à temps et à contre-temps, à l'exemple du Baptiste qui ne fait que désigner celui qui est l'agneau véritable, celui qui enlève le péché du monde, qui seul enlève le péché du monde, l'unique sauveur de l'humanité tout entière. C'est là sa mission prophétique, apostolique, et c'est là la mission de l'Église. Cette mission s'appuie d'abord sur celle qu'incarne la Vierge Marie, la toute pleine de grâce, qui rappelle à l'Église sa mission qui est d'abord contemplative sous le régime de la grâce sanctifiante du Christ. La Vierge Marie est la parfaite épouse de l'Esprit Saint, car elle a su consentir dans une pauvreté et une disponibilité totale à l'action de l'Esprit, jusqu'à enfanter au monde le Fils de Dieu fait homme. Elle est un modèle de foi pour chacun de nous, invité nous aussi à enfanter le Verbe de Dieu en nos vies, selon les mots fameux du bienheureux Carme, le père Titus Brandsma, décédé à Auschwitz. Le but de notre vie est marial, que le Fils de Dieu naisse en nous et naisse de nous. Que le Fils de Dieu naisse en nous et naisse de nous. Cette naissance, n'est-ce pas celle à laquelle toute l'Église se prépare en ces jours? Bientôt dans nos crèches, nous placerons l'enfant Jésus, le don que Dieu nous fait de lui pour qu'on l'accueille, qu'il naisse en nous. Car Noël, cela signifie d'abord la naissance de Dieu parmi les hommes, Noël, et non pas la fête du Père Noël et des familles. Mais accueillir Dieu en nous, ce n'est pas le garder pour soi seul, c'est aussi vouloir qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison commune, dans le cosmos, autrement dit qu'il naisse de nous pour que d'autres crèches, pour que d'autres cœurs lui donnent l'hospitalité. Mission donc contemplative et prophétique de l'Église tout entière, incarnée toutes deux par la Vierge Marie et Jean le Baptiste. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, mettons-nous à leur école pour garder cette joie profonde qui est celle de l'espérance. Ces ailes de l'espérance dont nous parlait le pape François en préambule, ces ailes qui doivent porter chacune de nos vies jusqu'au royaume sans couchant où elles s'épanouiront dans la joie de la Sainte Trinité. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le Seigneur ton Dieu est en toi, en vaillant sauveur.